Mesdames, Messieurs, bonjour, mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui à l'animation, M. Yannick Patelli et M. Michel Saint-Pierre. Messieurs, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour Michel.
Bonjour Yannick et alors, bonjour Sébastien.
Une quotidienne un peu particulière puisque nous allons aller par le biais de l'audio à Paris. Comme vous savez, je suis allé rencontrer Marc Vera qui semble...
Il y a des chanceux qui vont... qui prennent l'avion, les autres, c'est vidéo, quoi.
Oui, pour l'instant, c'est ça. Mais dans un premier temps, on va même essayer de faire venir Marc Vera dans les prochains mois, puisqu'on a discuté avec lui, il a un fort intérêt pour découvrir le terroir du Québec. La première chose qu'on faisait, on voulait d'abord le rencontrer, voir son intérêt, le connaître un peu plus, mais on en a profité pour aller à Taste of Paris, c'est très français, Taste of Paris. Taste of Paris, qui est un grand salon de la gastronomie, et comme à Paris, tout est dit en anglais, ça s'appelle Taste of Paris. Grand salon de la gastronomie au grand palais éphémère et on a rencontré pas mal de gens, entre autres des gens qui font du végétal, même dans la gastronomie de plus en plus de gens font du végétal. Alors on entend souvent parler de la viande végétale par ici, vous allez voir dans les audios, on a rencontré des gens qui font de la viande végétale en faisant de la merguez, mais on a vu aussi des gens qui font du saumon végétal. C'est très très souvent, mais on va écouter, tu vas pouvoir nous faire
des petits commentaires. Mais je pensais que c'était plus des menus virtuels végétarien, pas dans le sens de reconstitution, mais dans le sens de produits.
Là, c'est carrément du produit à base d'algues.
À base d'algues.
Donc, il n'y a pas de saumon.
Ouais, intéressant.
ça goûte le saumon, mais il n'y a pas de saumon. Mmh. Alors, on va écouter les audios. On va écouter les gens qui nous parlent du végétal, la compagnie Olala, qui fait du saumon végétal, et la compagnie Apivore, qui fait des merguez végétales.
Alors bonjour Simon Ferniaud, nous sommes à Taste of Paris, nous on vient d'arriver ce matin du Canada, on a quelques projets ici à Paris dans le monde de l'agroalimentaire et de la gastronomie et donc on a fait le tour par Taste of Paris, on découvre quelques kiosques et on s'est arrêté tout à l'heure pour goûter dans le vôtre parce qu'on était un petit peu surpris, on a découvert en fait du saumon végétal et c'est quelque chose que j'ai pas vu beaucoup. J'ai beaucoup entendu parler de viande végétale au Canada, du saumon végétal, pas beaucoup encore. Expliquez-nous, c'est quoi la marque Olala et comment vous est venue l'idée de ce projet?
Eh bien, c'est vrai que les premières alternatives végétales ont été plutôt portées par les produits laitiers ou par la viande dans un deuxième temps. Mais il n'y a pas de raison que les produits de la mer ne rejoignent pas cette cohorte de produits nouveaux qui nous proposent de végétaliser un peu notre alimentation. Donc ce projet Olala, c'est ça. C'est un projet pour essayer de faire du poisson avec des algues et de faire du poisson végétal pour aider... nous tous, les consommateurs, à végétaliser un peu dans notre alimentation, à mettre une part de végétal en plus dans notre assiette.
Ça se passe dans le coin de Boulogne-sur-Mer, on m'expliquait tout à l'heure?
C'est ça, on a en tout cas notre outil de production est à Boulogne-sur-Mer, qui est le premier port de pêche français, mais qui aujourd'hui est surtout le premier port de transformation du poisson en France, puisqu'à Boulogne-sur-Mer, on pêche par an entre 30 et 40 000 tonnes de poisson, mais on en transforme 200 000. Donc il y a vraiment un écosystème de transformation des produits de la mer, et nous on a trouvé que c'était intéressant, et les gens de Boulogne aussi ont trouvé que c'était intéressant d'essayer de renouveler un peu le genre aussi à Boulogne, en apportant une touche de nouveauté, une touche d'innovation dans cet univers du produit marin.
Et vous avez commencé ça quand? Il y a longtemps? Il y a quelques années ou alors, quelques mois?
L'entreprise a commencé il y a 18 mois, mais pendant la première année, c'était surtout le développement des nouveaux produits. Ces nouveaux produits, ils ont été faits, ils ont été prêts et présentés au marché depuis 3-4 mois. Aujourd'hui, ils sont réservés aux professionnels, donc on les propose à toutes les chaînes de restaurants qui utilisent ce type de produits déjà ou qui veulent remplacer des produits de la mer par des produits végétaux. On les propose aussi à toute une cohorte de professionnels de l'agroalimentaire, d'industrie de l'agroalimentaire, qui peuvent fabriquer soit des sushis, soit des sandwichs, soit des salades, soit tous ces produits avec lesquels ils utilisent des produits de la mer et pour lesquels ils ont besoin maintenant de réfléchir à des alternatives végétales, des traiteurs, des gens des collectivités. Donc en fait, tout cet univers des professionnels de ce qu'on appelle du food service, c'est-à-dire des gens de la restauration et des produits...
Et est-ce qu'on risque de retrouver Olala dans les supermarchés dans quelques années?
On risque, oui, mais...
on a la chance de retrouver.
On a décidé et on a souhaité commencer par les professionnels, aussi parce que on a besoin encore d'éduquer le consommateur. Je crois qu'on a tous besoin d'être un peu pris par la main. On n'a pas... Notre rapport à l'alimentation est un rapport d'intimité, un rapport très personnel qui est lié à l'enfance, à des goûts, etc. Et donc, personne n'a envie de prendre trop de risques. C'est le paradoxe de l'omnivore, on a besoin de diversifier, mais ce changement qui intrigue, il inquiète aussi. Donc on a besoin d'y aller, on veut y aller, mais il faut y aller progressivement.
Moi j'ai goûté le saumon, ce qui m'a surpris, c'est qu'il sent le bois. Non, il goûte le saumon un peu, d'une certaine façon aussi, mais c'est, je pense qu'il goûte le saumon parce qu'il sent le bois. Comment vous le préparez à votre...
En fait, on prépare ce saumon qui est une espèce de gel d'algues, si vous voulez, auquel on essaie de donner une texture qui est proche du saumon. Et puis ensuite, on le fume de façon traditionnelle au bois de hêtre, comme le saumon fumé. Donc c'est aussi pour ça qu'il a un bon goût qui nous rappelle quelque chose qui nous plaît.
Merci beaucoup.
Merci
à vous. Bonne journée. Bon, Joël Moore, on est ici à Paris, au Test of Paris. On va être avec Marc Vera tout à l'heure, qu'on a rencontré au Rural ce matin et avec qui on avait mangé hier midi. Et là, moi, au Test of Paris, ce qui me surprend, c'est dans beaucoup de kiosques, je retrouve beaucoup de nourriture végétale. Là, j'arrive dans ce kiosque qui s'appelle Happyvore, en fait, je viens de goûter une merguez, mais qui est faite végétale à base de pois. Expliquez-nous, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez un petit peu le conseiller de cette merguez.
Oui, là, exactement. C'est-à-dire que, bon, actuellement, au niveau des jeûnes, on ne veut plus faire souffrir les animaux. Effectivement, on peut remplacer la viande par du végétal. Donc, dans la merguez, là, par exemple, c'est du pois. Du pois avec des épices, avec des aromatisations. Et on arrive à tromper un petit peu le goût de notre palais, de nos papilles, avec des produits comme ça, sans qu'il y ait de viande. Mais bon, faut pas... Je préfère quand même une bonne viande, je m'excuse de dire ça, c'est très bon, mais il faut pas se nourrir que de ça.
La gastronomie, c'est avant tout du vivant. Mais j'ai fait quelques tests végétaux, ils ne sont pas tous d'une grande réussite dans ce que j'ai vu ici, mais là j'avoue, effectivement, le goût est un peu est similaire.
Oui, c'est similaire, on essaye de reproduire à peu près la viande, mais il y a des bonnes choses et des mauvaises choses dans le végétal. Alors effectivement, avec Happyvore, c'est bien développé, ils n'ont que trois produits ressemblent un petit peu à la viande. Mais c'est quand même pas de la viande, faut quand même pas. Mais c'est bon à la santé, c'est vrai. C'est que des bons produits de base, c'est surtout ça qui compte en alimentation. Le produit naturel de départ. C'est surtout ça qui compte.
Et j'imagine aussi la proximité d'où on va chercher son produit.
Voilà, en fait. Exactement, les cultures qui sont, bien sûr, sans OGM, sans pesticides, sans des trucs comme ça. Je rejoins mon ami Vera là-dessus, automatiquement. Lui, il veut que justement, que maintenant, la santé joue sur l'alimentation. Et qu'on joue avec la santé, que l'alimentation joue avec la santé. C'est normal, quoi. Voilà. Alors, du végétal, oui, mais pas excessivement que du végétal.
À petite dose.
À petite dose, voilà.
Merci.
Alors voilà, c'était comme ça qu'on a pu, en fait, visiter quelques kiosques de végétal, notamment avec Joël Moore, donc l'ami depuis 40 ans de Marc Vera, celui qui nous a introduit auprès de Marc Vera. Et comme tu vois, donc c'était un peu surprenant. La merguez, franchement, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Le saumon... La première fois que tu le goûtes, ils te le servent sur un petit canapé. Là, tu dis, ah, c'est ouais. Bon. Il y a un petit arrière-goût de gélatine derrière. Ah, ouais. Donc ça prend beaucoup de... En fait, quand il est très bien préparé, c'est trompeur.
Bon. Mais ça ne remplace pas un filet de saumon. Là.
Ça ne remplace pas
un filet de saumon. C'est un peu une terrine de saumon ou une sorte de rillette de saumon fumé.
Non, dans l'apparence, non. C'est ça qui est surprenant. C'est parce que dans l'apparence, sur le petit os, là, c'est réellement une tranche de saumon, en fait.
Ah, bon.
Donc parce que moi, j'ai demandé, en fait, à voir le brut. À un moment donné, je leur ai demandé, est-ce que je peux voir le saumon? Ben, le saumon, c'est pas le paquet de saumon brut à base d'algues.
Ouais.
Et en fait, c'est présenté en tranche comme du saumon fumé. Donc l'aspect que tu regardes, ben, c'est ça, mais la texture est un peu plastique.
Ah, bon.
Quand
tu
la touches, c'est-à-dire c'est un peu plus plastique.
Mais la merguez, ça semble avoir...
la merguez, c'est très, 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 très bluffant.
Donc dans un couscous royal, tu mettrais cette merguez là.
Éventuellement. Mais tu vois, Joël Moore, qui a quand même travaillé avec Happyvore là, sur la création de cette recette, toi, lui-même, c'est un bon vivant et il aime beaucoup la vraie nourriture.
Mais il dit quelque chose, je pense, qui est important, et puis ça ressort maintenant de plus en plus. Tout n'est pas positif. C'est pas parce que c'est végétal que c'est nécessairement positif. Il y a des côtés énergétiques là-dedans, il y a le côté des additifs que tu mets là. Ça reste un produit surtransformé. Là.
Oui, surtransformé, et ça dépend aussi de la provenance de tes aliments que tu mets dans
aussi,
le végétal.
Aussi, voilà, c'est ça. Mais il reste que ça reste une démarche intéressante dans le sens que les choses vont graduellement évoluer. C'était, tout à fait nouveau. C'était presque inusité il y a 10-15 ans quand on disait, quand on parlait d'une viande, simili-viande végétale. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je pense que les choses ont... Bon, bien,
Oui, ben moi ce qui m'a impressionné, parce que je sais qu'au Cial, j'avais déjà vu des choses comme ça au Cial, du végétal, mais ce qui m'a impressionné, c'est que dans un salon de la gastronomie, on n'avait pas de gêne à avoir du tout un kiosque vrai, végétal.
On s'adressait à un public de pointe, là, c'était les chefs qui étaient là en général.
Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de chefs, on va tout de suite aller écouter un chef qui s'appelle Pierre Sang, qui a à Paris la maison Pierre Sang, qui est un chef en fait coréen d'origine, mais adopté par des Auvergnats. Il va nous raconter son histoire. Très intéressant. Lui, il fait un thon, c'est du vrai thon. Il fait un thon, un tartare de thon qui est à tomber par terre. On l'a rencontré et on a rencontré également Guillaume Gomez. Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l'Élysée, qu'on a rencontré là par hasard, mais avec qui on a eu un petit échange et qui est actuellement le représentant personnel du président Macron pour développer l'art culinaire à travers le monde. Donc évidemment, il fallait qu'on lui parle. On écoute tout de suite Pierre Sang et Guillaume Gomez.
Pierre Sang, bonjour. On s'est croisés tout à l'heure au début de Taste of Paris. J'ai goûté un burger chez vous et j'ai goûté aussi un thon avec une tuile de soya assez exceptionnelle. D'abord, qui est Pierre Sang et c'est quoi le restaurant Maison Pierre Sang à Paris?
Alors merci, c'est cool d'entendre ça, que les plats vous aient plu. C'est un peu mon histoire, c'est entre la France et la Corée. Maison Pierre Sang parce que c'est l'image de mon prénom. J'ai une partie du prénom de mes grands-parents, parce que j'ai grandi en Auvergne. Souvent, le petit-fils prend le prénom du grand-père, de chaque côté. Sang, c'est une autre partie de mon prénom en coréen, parce que j'étais adopté, en fait. Et par rapport aux plats que vous avez faits, j'essaie de prendre ce qui me semble être le mieux, par rapport aux produits français, avec la culture coréenne. Quoi.
Okay, vous faites, c'est comme le pont entre les deux pays, en fait. Ouais, puis vous me disiez que votre femme est coréenne également.
Exactement, on essaie de faire le pont entre les deux pays, les deux cultures, que ce soit les traditions, que ce soit le respect des produits, c'est important, que ce soit l'amour, parce que ma femme est coréenne, il y a plein de parallèles à faire et plein de choses à partager.
Et vous me disiez que vous connaissiez un peu Montréal et sa cuisine, vous y allez de temps en temps?
Montréal, je suis un fan de Montréal, j'ai grandi, vous savez, j'étais adopté, j'ai grandi en Auvergne, où j'adore pêcher, la pêche à la mouche, la pêche au toc, pêche à la dérive. J'ai eu la chance de partir plusieurs fois à Montréal, rencontrer des super chefs, des chefs étoilés, des chefs qui s'occupent de coacher Bocuse d'Or, que ce soit que Charles-Antoine Crête, que ce soit Martin Picard, tous ces chefs-là que je connais depuis, on va dire, une quinzaine d'années. C'est des gens que je respecte beaucoup parce que c'est une cuisine qui est vraie, sincère, avec des super produits.
Et pour les gens qui vous cherchent, on vous retrouve à Paris, dans le 11e arrondissement, mais est-ce que vous êtes aussi ailleurs?
Exactement, j'ai plusieurs restaurants, j'ai un bistrot, brasserie, gastro dans le 11e arrondissement. On a monté un restaurant à Séoul avec Louis Vuitton. Il n'y a pas très longtemps, on a ouvert un restaurant en Galerie Lafayette. Et là, depuis 4 ans, on essaie d'être accessible à un plus grand nombre, c'est-à-dire qu'on vend des plats à emporter à partir de 10 euros, à base de viande, de poisson et de légumes.
Oui, parce que vous me disiez tout à l'heure aussi, dans les plats que j'ai goûtés, en fait, le tartare de thon qui n'était pas très cher, qui était à 12 euros, en fait, vous essayez de faire en sorte d'avoir de la qualité, mais à des prix abordables, c'est ça?
Exactement, la qualité à un prix abordable, c'est quelque chose que j'ai appris à Montréal, au Canada. Et je pense que c'est une valeur qu'on partage. Et c'est important de le partager parce qu'on fait un métier de service. C'est important de respecter les produits et d'être sincère auprès de notre clientèle.
Merci Pierre Sang.
Merci vous.
Ça va, vous avez goûté ? Monsieur Gomez, bonjour, ambassadeur de la gastronomie pour la France, pour l'Elysée. En fait, expliquez-nous d'abord votre rôle et ce que vous faites ici à Taste of Paris.
Bonsoir, donc je suis le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Et j'ai un rôle d'ambassadeur thématique sur la gastronomie et l'alimentation auprès de la ministre des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, donc qui est notre ministère, notre foreign office. Et je m'occupe du rayonnement de la gastronomie et de l'attractivité pour la France à l'étranger. Donc en accord et en travaillant avec nos instituts français, nos ambassades, nos consulats, je fais en sorte que la gastronomie française puisse rayonner et qu'on puisse retrouver nos beaux produits partout à travers le monde.
Ici aujourd'hui vous êtes venu voir en fait ce que proposent les nouveautés des grands chefs français.
Oui, les tendances, un festival pendant plus de 3 jours à Paris avec énormément de gens qui vont venir découvrir la gastronomie française, pas que parisienne bien sûr, mais française. Vous voyez, on est devant le stand de la maison Bocuse, donc ces Bocuse sont à Lyon, mais c'est cet esprit français, c'est ce qui plaît aux gens. 7 touristes sur 10 qui viennent en France disent venir pour vivre un moment gastronomique, avec un morceau de fromage, avec un vin, un champagne, avec un plat. Donc un festival comme celui-ci, c'est la mise en avant de notre culture, de notre économie, de nos artisans, de celles et ceux qui font la France.
Alors, la gastronomie française s'exporte très bien. Est-ce que les chefs français s'exportent un peu aussi quelquefois ?
Bien sûr, les chefs français, la gastronomie française s'exporte, donc les chefs s'exportent, mais pas que. Parce que quand on parle de gastronomie, c'est un travail qui va de la production jusqu'à la transformation de tous nos artisans. Mais que ce soit nos vignerons, nos pâtissiers, nos charcutiers, nos fromagers, nos chefs de cuisine, nos chefs, même nos chefs de rang avec les arts de la table à la française, la gastronomie dans son ensemble s'exporte très bien. Et vous savez, s'il y a un secteur dans lequel la France rayonne formidablement et est bien accueillie à l'international, et nos amis canadiens le savent bien puisqu'ils nous font aussi beaucoup, nous accueillent les bras grands ouverts lorsqu'on a des manifestations là-bas, c'est bien la gastronomie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors voilà, c'était notre rencontre, un peu impromptue avec Guillaume Gomez, puisqu'il n'était pas du tout prévu qu'on se voit, mais c'est notre présence là avec Marc Vera et les chefs Bocuse. Et on voit que Guillaume Gomez, tout comme Pierre Sand d'ailleurs, a beaucoup d'intérêt pour le Canada et pour Montréal.
Oui, mais particulièrement Pierre...
Pierre Sand, comme le sang, S-A-N-G. Oui.
Ah, quand même, voilà, je ne sais pas comment j'écrivais. Ben lui... Il a l'air d'être gagné à la cause pêcheur à la ligne, pêcheur à la traîne, pêcheur à tout.
Oui, puis je pense qu'il a Montréal, et des très bons contacts avec les chefs étoilés de Montréal.
Oui, ben, c'est ça. Effectivement, voilà. Je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est un beau rapprochement. Puis, dans le cas de Guillaume Gomez, ben voilà, invitons-le.
Invitons-le, ben, tout à fait. D'ailleurs, on a échangé après l'entrevue avec Guillaume Gomez. On lui a dit qu'on était en train de travailler un projet avec Marc Vera. Il nous a il nous a donné sa carte, il nous a dit écrivez-moi, il nous a dit je vais vous aider, voir ce que je peux faire pour appuyer ce projet. Et depuis les dernières heures, là, on a reçu d'ailleurs un contact de l'équipe de Guillaume Gomez pour nous mettre en contact avec la consul de France à Montréal. Donc, les choses vont plutôt bien et on espère bien de voir Marc Vera et tout ce monde venir défendre l'art culinaire français au Québec bientôt et rencontrer le terroir du Québec. Parce que derrière ça, Marc Vera, il faut comprendre que ce qu'il nous a dit, c'est lui, son grand intérêt de venir, c'est sa passion, c'est les herbes sauvages. Donc lui, ce qu'il veut voir, c'est notre relation avec les autochtones, c'est peut-être les épices du guerrier, les bleuets sauvages, la canneberge biologique, l'érable. Il a vraiment une intention d'aller... d'aller à la rencontre de notre terroir. Donc on verra ce qui peut se passer à l'automne prochain.
Est-ce que tu dirais qu'il est actuellement le chef, le plus connu
Le plus
emblématique. Il y a eu, je dirais, le plus l'ère Bocuse, là, et qui continue.
Il a été parrainé par Paul Bocuse. Quand on parle, parce que j'ai passé quelques soirées avec lui, quand il nous explique, il a été parrainé réellement par Bocuse, comme c'était le petit dernier, mais il a 74 ans aujourd'hui. À l'époque, Paul Bocuse le considérait un peu comme son filleul, d'une certaine façon. Et il est emblématique, parce qu'on le sait, il a son chapeau, il a pas la toque blanche,
il est un peu spectaculaire.
Un peu spectaculaire, il aime s'exprimer, mais au final, il a été le seul à avoir été trois fois 3 étoiles Michelin, le seul à avoir été 2 fois 20 sur 20 au Goemio. Et pour avoir parlé avec Christian Tête d'Oie, qui est un chef étoilé, une étoile Michelin, en fait, à Lyon récemment, dans mon voyage, il me disait, quelque part, c'est une génération, en fait, Marc Vera, et c'est emblématique en France et à travers le monde. Donc c'est pour ça qu'on est assez content qu'il s'intéresse à nous.
Et quelqu'un qui est, dans le fond, de sa propre école. Non? Parce Tout que quand fait. On l'a écouté nous raconter ses débuts, il n'a pas été... dans une suite, là, par exemple, dans une brigade, et après ça, adjoint du chef.
C'est ça, autodidacte.
Un autodidacte. Il a commencé à aimer les choses, à développer des choses. Je pense que l'influence de son grand-père était là quand même. Là. C'était ça qui était, son inspiration, c'est le grand-père. En tout cas, je pense que c'est intéressant. C'est un personnage.
Et on va écouter, on a encore 2 audios. Un, notamment, qui fait référence à mon passage après Paris à Lyon, puisque je suis allé rencontrer notamment Christian Tête d'Oie. Mais là, on va écouter Christian Raoult, qui est un des chefs exécutifs actuellement de Bocuse, parce que Paul Bocuse est décédé, mais je dirais l'écosystème Bocuse, il vit avec des chefs qui s'occupent des grands restaurants de Lyon, mais aussi de toute la compagnie Bocuse, dans laquelle il y a 4 chefs exécutifs. On en a rencontré un, il s'appelle Christian Raoult. On l'a rencontré 3 minutes, en fait, c'est ça, au salon. Et ensuite, on va finir sur une entrevue, justement, avec Marc Vera, parce qu'après avoir marché ce salon pendant toute la journée avec Marc Vera, où on a fait une centaine de photos, parce qu'il se fait arrêter par tout le monde, on s'est assis avec lui à son hôtel et on dit, c'est quoi le bilan? Et tu vas voir, il va te surprendre, parce que son bilan, c'est aussi ses inquiétudes pour l'avenir sur la gestion de l'eau. Ça, c'est un thème qui lui est venu en me parlant. Alors, on écoute les 2 derniers audios.
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Depuis 1992, Première Moisson est fière d'être à votre table avec les produits inspirés des méthodes traditionnelles françaises. Venez découvrir la grande sélection de pains frais du jour confectionnés par des artisans boulangers et mettant en vedette les blés du Québec. Visitez premièremoisson.com ou rendez-vous à la boulangerie la plus près de chez vous.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Bonjour Christophe Raoult, vous êtes un des chefs exécutifs chez Bocuse, on est au Test of Paris. Bocuse, ça me parle parce qu'après Test of Paris, je m'en vais à Lyon rencontrer des gens qui travaillent dans le milieu de la gastronomie, entre autres Anne Prost. Et je voulais voir avec vous, en fait, d'abord pourquoi la maison Bocuse est ici, pour très connue la maison Bocuse, a encore besoin de se représenter dans des événements comme cela ?
Alors, la maison Bocuse est très connue, comme vous dites, mais nous, on est très heureux de la faire découvrir à Paris. Alors, oui, c'est connu, pardon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolé. Donc la maison Bocuse, on est très heureux de la faire découvrir à Paris, vraiment. On est content de faire découvrir nos quenelles aux clients. On est content de faire découvrir le baba, de faire découvrir la volaille de Bresse. Effectivement, la maison Bocuse est connue dans le monde entier. Mais je trouve, pour nous, c'est un événement, c'est un bel événement. Test of Paris est un bel événement. Et je trouve que c'est bien d'avoir une belle visibilité. Le groupe a trouvé que c'était bien d'avoir une visibilité sur le Test of Paris.
Paul Bocuse est très connu, on connaît aussi son restaurant gastronomique à Coulonges, à quelques kilomètres de Lyon. Maintenant, bon, il est décédé, ça a été repris par d'autres chefs. Mais au-delà du restaurant gastronomique, c'est ça, la maison Bocuse, c'est quatre chefs exécutifs, dont vous, et tout un écosystème. Parce que quand je regarde ici, tout ce que je vois, en fait, ça va de la tablette de chocolat au caramel salé. Il y a vraiment un écosystème complet chez Bocuse.
Bien sûr, il y a Jérôme Bocuse déjà qui développe, qui a une grande ouverture d'esprit, hein, le fils de Paul Bocuse. Vous avez M. Morel qui est notre directeur général, qui a une grande ouverture d'esprit aussi et qui dynamise les maisons énormément. Il est avec Amal aussi qui développe toute la marque Paul Bocuse. Donc comme vous dites, il y a des tablettes de chocolat, il y a des confitures, il y a des noisettes. Donc c'est important de développer, de faire perdurer le nom, de faire perdurer cette marque. Il faut savoir qu'à Collonges, les deux chefs qu'il y a à Collonges sont deux meilleurs ouvriers de France. Il y a Olivier Couvin qui est meilleur ouvrier de France 2015. Et puis vous avez Gilles Reynard qui est meilleur ouvrier de France 2004, qui ont été des disciples de Paul Bocuse. Donc qui tiennent la maison d'une main de maître. Aujourd'hui, ils ont su se remettre en question aussi, eux, pour cette maison, qui a perdu sa troisième étoile. Ces garçons-là font un travail remarquable. Sincèrement, je vous invite vraiment à y aller manger parce qu'ils font un travail de trois étoiles. Ils sont dans la discrétion, ils sont dans la qualité, dans le qualitatif, ils sont dans la technique de travail. Et puis à côté, vous avez toutes les brasseries du groupe, hein, l'Ouest, l'Est, le Sud, le Nord. On a repris également le Léon de Lyon. Voilà, toutes ces maisons-là.
Et également les Halles Bocuse, je pense à Lyon aussi, les Halles Gourmandes, en fait.
Oui, alors il y a les Halles Bocuse, bien sûr. Alors ça, c'est encore une autre entité. Vous avez, les Halles Bocuse sont d'une qualité exceptionnelle. Vous avez des gens fabuleux sur les Halles. C'est des gens passionnés. qui font un travail remarquable. Et je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait cette image de ces halles là qui sont dynamiques. Vous avez la mère Richard sur les halles, vous avez la maison Trollier, vous avez des maisons exceptionnelles, vous avez enfin que des produits qualitatifs. Les Lyonnais viennent chercher leurs produits là-bas et je trouve que c'est important d'avoir ça aujourd'hui sur Lyon.
Et quel est le rapport chez Bocuse, dans la maison Bocuse, le rapport au terroir, le rapport aux producteurs en fait ?
En fait, dans ces maisons, dans les maisons Bocuse, il y a une chose qu'on ne fait jamais, on ne triche jamais avec le client. Et en fait, le mot d'ordre, c'est la qualité. La qualité, pour Jérôme Bocuse, pour Monsieur Morel, pour l'ensemble du groupe, pour les chefs, on ne touche pas à la qualité. On ne touchera jamais à la qualité. Donc, on a des volailles de Bresse, on a des brochets français, on a des producteurs exceptionnels, on a des éleveurs exceptionnels. Voilà, et on garde cette qualité, cette ligne de conduite restera toujours la même.
Merci beaucoup.
Merci à vous, monsieur. Je suis désolé, j'avais un chat dans la gorge, je suis vraiment désolé.
Marc Vera, on sort ensemble du Test of Paris. On a vu des choses assez impressionnantes. Entre autres, je pense que vous avez bien tilté sur le thé. Le thé en bouteille servi comme du vin. Je vous ai vu apprécier ça. Ça vous a impressionné un peu, hein ?
Alors, c'est très intéressant. C'est complètement végétal. Et en plus, ils m'ont certifié sans pesticides, sans insecticides, sans phytosanitaires. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est formidable. Et vous savez, le but de notre opération, c'est ça, c'est des produits de proximité sains, des petits producteurs locaux, et c'est de travailler dans ce sens-là.
Et dans cet esprit-là, justement, je sais qu'on est en train de regarder votre venue à Québec, possiblement au mois d'octobre prochain. Il y a déjà le Château Frontenac, il y a l'ITHQ qui semble très intéressé à vous voir. Je pense que votre discours sur l'écologie, je vous ai entendu toute la journée en parler avec plusieurs autres chefs au Test of Paris. Je pense que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais il y a aussi quelque chose qui vous tient à cœur. On parlait dans la voiture en revenant tout à l'heure, votre inquiétude sur la gestion de l'eau. Et là, au Canada, actuellement, il commence à y avoir des vraies recherches et des vraies discussions, alors qu'on est les plus grands propriétaires d'eau douce au monde. On commence à se poser la question sur la gestion de l'eau, qui est vraiment la problématique de l'agriculture des 25 prochaines années. Je pense que vous êtes sensible à ça.
Je suis très sensible. Et nous, alors, par contre, je suis très inquiet parce qu'on est devant le fait accompli en France. On n'a jamais eu une telle sécheresse. On a vraiment des points d'eau, des points d'eau qui sont énormément bas. On n'a jamais vu ça depuis des siècles et des siècles. Et là, on est devant le fait accompli. Donc, vous avez raison. Vous avez de la chance d'avoir des politiques qui font en sorte que de prévenir tout ça, de voir l'anticipation. C'est le rôle des politiques. Et on l'a pas chez nous. Et moi, je suis assez catastrophé. Ça, c'est en train de se faire, mais avec beaucoup de retard. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il y avait une dame qui s'occupait de l'eau, qui était une femme d'exception. C'était Madame Mitterrand, la femme de notre président décédé, qui m'avait parlé une fois d'eau avec... C'était émouvant, les termes qu'elle avait employés sur l'eau. Elle a dit, vous savez, chef, dans les siècles à venir, ça va être catastrophique. Il faut absolument que l'on fasse quelque chose. Et c'est aussi le problème de ce changement de climat au niveau de la Terre. C'est assez hallucinant. Enfin, moi, je vis à côté du Mont-Blanc, quand on voit le glacier des Bessons, qui se résorbe à une allure, mais vertigineuse. La mer de glace se trouve 200 mètres en profondeur, vous descendez dans les cailloux. Enfin, moi, je l'ai connu il y a quelques années. On arrivait à même la mer de glace, vous vous rendez compte? C'est hallucinant. C'est très, très, très émouvant. Et se dire que on va être devant le fait accompli. Il va falloir prendre des dispositions. Vous savez, les fleuves manquent d'eau en France, ici. Moi, vous savez, où j'habite, c'est une région très rurale, je suis en montagne. On a ce qu'on appelle les moyens en montagne. Ce sont des marécages alpins. Moi, j'ai plusieurs hectares de marécages. Où j'allais avec mon papa, on allait aux champignons, et papa disait, mettez bien les bottes, les enfants. Parce qu'on s'enfonçait dans ces marécages. Et aujourd'hui, vous pouvez y aller pieds nus, hein. Il n'y a plus de marécages. Non, mais c'est très, très, très inquiétant.
La gestion de l'eau, c'est sûrement un thème qui va vous intéresser quand vous allez venir au Canada, parce que vous allez sûrement rencontrer des gens qui vont avoir la même sensibilité que vous. On veut aussi qu'au Canada, vous rencontriez le terroir du Québec, qui effectivement n'a pas l'histoire du terroir ici, mais on veut vous mettre en contact, notamment avec Frédéric Cyr, qui est directeur culinaire au Château Frontenac, dont le père était le précurseur du terroir du Québec. Comment vous appréhendez ça, vous, la rencontre d'un terroir du Québec, d'un terroir nouveau, en fait, que vous ne connaissez pas ?
Mais un terroir nouveau, est-ce que vous n'êtes pas, en définitive, des précurseurs de... l'identité d'un patrimoine, d'un terroir. C'est ça le problème. C'est que nous, Bien sûr qu'il y a des terroirs exceptionnels en France. C'est une zone d'exception, la France. Mais à travers la mondialisation, à travers ce système mondialisé, on est en train de perdre petit à petit cette identité. On est en surproduction partout. On a des céréaliers. C'est affligeant. Ils reçoivent des aides de l'Europe, la soi-disant Europe unie. Ils reçoivent des aides gigantesques, alors que le petit terroir qui reçoivent effectivement des subventions moindres pour arriver à exister. C'est pas normal. Et là, il faut absolument qu'on mette un différend avec ces gens-là en disant c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. On est en surproduction. La surproduction, c'est quoi ? C'est des engrais chimiques, c'est des pesticides, des insecticides, c'est tout ça. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'à travers tout ça, on puisse, y compris chez vous, travailler avec des locaux, essayer de faire une chaîne humaine de ces gens qui travaillent bien, qui travaillent le cœur. Parce que, en fait, c'est l'exemplarité d'une grande communauté qui se dit « Soyons responsables de ce que l'on donne à l'humain, les aliments que l'on donne à l'humain. Est-ce que c'est bien pour leur vitalité ? Est-ce que c'est... On doit être l'exemplarité de tout ça. » Et je vous promets que si on arrivait à faire cette chaîne humaine, à donner l'exemple, la santé publique se porterait mieux. Et surtout chez nous, la sécurité sociale, je vous garantis.
On vous attend à Québec, des belles rencontres en perspective.
Avec plaisir.
Alors voilà, c'était la finale en fait de ce Test of Paris. On faisait un peu le bilan avec Marc Vera. Puis il est parti plutôt, on avait déjà parlé beaucoup nous, du culinaire, de ce qu'on avait de la gastronomie. Puis il est parti sur une inquiétude. C'est quelqu'un de très, très sensible à l'écologie, très sensible aux renouvelables. Et là, sa nouvelle inquiétude, c'est la gestion de l'eau. Ça rejoint un thème qu'on a parlé très récemment.
Oui,
Michel.
Puis moi, ça me surprend. Ça me surprend de l'entendre parler comme ça, avec comme une émotion qu'il y met. On l'a eu en échange lors d'une émission antérieure. Et puis, on a parlé davantage de son parcours. Mais la pause qu'il fait pour parler de l'eau, des problèmes d'eau, et en France, c'est vrai qu'ils sont plus que visibles, ces problèmes-là. Ils existent. Nous, ici, parfois, on les anticipe, mais là-bas, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et la suite de l'interview, c'était au niveau des terroirs. Puis, on peut... Puis, il se pose un peu la question en même temps. Est-ce qu'on va être capable, de faire en sorte que les petits terroirs... ou occupe une plus grande place et change un peu la relation du consommateur avec les aliments. Est-ce qu'on va y arriver? Puis ici aussi au Québec, on a ça. Hein? Bon, on essaie quand même de promouvoir tous les produits locaux, qui sont des circuits courts, des produits qui sont produits avec des méthodes très respectueuses, très environnementales, très durables. Bien, quand même.
C'est pour ça que sa venue est importante, si on arrive à la réaliser, parce que Marc Vera, quand il s'exprime, il s'exprime très bien. Et il a une portée, il a une audience. Il a vraiment une audience dans le monde des décideurs en France, des Européens, partout, et dans le monde de la gastronomie. Donc en fait, s'il a cette sensibilité-là dans sa venue au Canada, au Québec, et qu'il comprend les mêmes enjeux dont on parle souvent, je suis convaincu que c'est un porte-parole fort intéressant.
Je pense qu'il nous appartient à nous de lui... de lui faire le portrait du départ de façon à ce qu'il puisse, lui, poursuivre dans ses échanges et un peu la promotion des terroirs et de la gastronomie québécoise.
Alors, merci beaucoup, Michel. Écoute, on va suivre ça de très près dans les prochains mois, puisqu'on espère le voir venir ici au mois d'octobre prochain.
Oui,